Le secret de la comtesse Barbara par Henri de Régnier. L'homme dont vous lirez plus loin l'étrange confession était de bonne famille vénitienne. Je dis était, car au moment où j'eus connaissance du document en question, le rédacteur de ce curieux écrit venait justement de mourir quelques semaines auparavant à l'hôpital de l'île San Servolo, où on le tenait enfermé depuis plusieurs années. Ce fut sans doute cette circonstance qui détermina l'aimable directeur de l'asile des aliénés, M. C., à me faire part de cette élucubration symptomatique. Il est vrai aussi que j'étais chaudement recommandé à M. C. et que l'enquête psychologique médicale que j'étais venu poursuivre dans le manicomio de Venise l'assurait de mes intentions. Il savait bien que je n'abuserais pas des confidences de son défunt pensionnaire. Aussi n'eut-il aucun scrupule à me laisser copier la pièce qu'on va lire et que je livre aujourd'hui au public. Je le fais d'ailleurs avec d'autant plus de liberté que les événements qui y sont relatés remontent à près de 25 ans. Il y en a juste 12 maintenant que les études auxquelles je m'appliquais et que j'ai abandonnées depuis m'avaient amené à Venise. En ce temps-là, elle me passionnait tellement que je ne songeais guère alors à goûter les poétiques et pittoresques beautés de la cité des Doges. C'était à peine si j'en visitais à la hâte les monuments et je ne pensais pas une minute à jouir du repos que nous offre la seule ville au monde où l'on puisse oublier à peu près complètement la vie moderne. Parmi tant de belles choses que je voyais pour la première fois, je ne m'occupais que de mon travail. Il n'en est plus de même aujourd'hui, et je ne me souviens pas sans quelque dédain du jeune visiteur d'autrefois qui vivait à Venise comme il l'eût vécu n'importe où, à qui la basilique de Saint-Marc semblait un lieu quelconque et qui n'avait pour le palais ducal que des regards négligents. Oui, je poussais si loin cette indifférence que j'habitais en face de la gare. En adoptant ce logis, je n'en avais considéré que la commodité et le prix modeste. Il résulte de ces aveux que le sens de la beauté était à cette époque tout à fait atrophié en moi, de telle sorte que les endroits les plus intéressants de Venise me paraissaient le café Florian, dont j'appréciais fort les sorbets, le Lido où j'aimais à prendre mon bain, et l'île San Servolo dont l'aimable directeur, intéressé par mes recherches, m'éclairait de ses lumières. Ah, le brave homme, que le signore ! J'ai conservé bon souvenir de nos conversations dans le cabinet de travail qu'il occupait dans son île d'aliéné. Les fenêtres de cette pièce s'ouvraient sur une terrasse plantée de 3 cyprès inégaux et qui dominait l'étendue de la lagune du côté de Malamocco et de Chioggia. Nous nous asseyions souvent là pour discuter. Il y faisait un silence admirable, à peine troublé par quelques hurlements qui s'élevaient parfois du quartier des agités, et aussi à marée basse, par le grouillement des rats dont la foule innombrable s'ébattait dans la vase au pied des murailles. Ce fut à la suite d'un de nos colloques de la terrasse que M. C. me communiqua le document que l'on va lire et que je recopie en le traduisant. Manicomio de San Servolo, le 12 mai 1800 et quelques. Maintenant que je suis bien et dûment considéré comme fou, et que me voici enfermé dans cet asile très probablement jusqu'à la fin de mes jours, rien ne m'empêche plus de relater en toute exactitude et vérité les événements qui ont amené mon internement. N'allez pas vous imaginer surtout, vous qui parcourrez peut-être ces lignes, que vous vous y trouverez en présence d'un de ces maniaques qui rédigent d'interminables récriminations contre l'erreur médicale dont ils ont été victimes, ou qui dénoncent les sombres machinations de famille et les drames intimes qui ont eu pour suite la perte de leur liberté. Non, loin de moi l'idée de me plaindre de mon sort et de réclamer contre la mesure prise à mon égard. Nul projet d'évasion, depuis que je suis ici, ne m'a traversé l'esprit. Au contraire, ma cellule de San Servolo n'est pas pour moi un cachot, mais un refuge. Elle m'assure une sécurité que je ne trouverai pas ailleurs, et je n'ai aucune envie d'en sortir. Je bénis les épaisses murailles et les grilles solides qui me mettent désormais à l'abri, et pour toujours, de la société des hommes, et en particulier de ceux qui font profession de juger les actions humaines. En effet, même si ces lignes tombaient sous les yeux des magistrats, elles seraient sans valeur pour eux, et pour moi, sans danger, par la bonne et simple raison que je suis légalement et médicalement tenu pour fou. Cette qualité me donne toute licence de parler librement. Ma folie est ma sauvegarde. Aussi, à mon arrivée ici, et je fais tout ce qu'il fallait pour bien établir mon cas. Je me suis roulé par terre, j'ai fait mine de vouloir étrangler un gardien, j'ai déraisonné avec un soin scrupuleux et un art auquel j'aurais pu me tromper moi-même. N'importait-il pas de bien assurer ma situation afin de jouir en paix des avantages qu'elle confère? Car vous l'avez déjà deviné, j'en suis sûr. Je ne suis pas fou du tout, mais j'étais victime d'une effrayante aventure, d'une de ces aventures que l'on se refuse à croire et qui pourtant sont vraies, bien qu'elles dépassent la portée de notre faible entendement. Écoutez la mienne et jugez-en. Le premier malheur de ma vie fut que je naquisse pauvre et le second que la nature m'eût créé paresseux. Mes parents sont de bonne race, mais peu favorisés de la fortune. Néanmoins, ils me firent donner une excellente éducation. Je fus donc mis en pension dans le meilleur institut de Venise. Des jeunes gens de famille y fréquentaient. Ce fut là que je fis connaissance du jeune comte Odoardo Grimanelli, de qui j'aurai à parler tout à l'heure. Nos études furent médiocres et les miennes achevées tant bien que mal. Mes parents me mirent en demeure de choisir une profession. À ce moment, ma maudite paresse intervint. Elle était insurmontable et en cela, je suis un vrai Vénitien. À quoi bon être né dans la plus douce cité de l'univers s'il faut y travailler comme ailleurs? Venise à elle seule m'était une occupation suffisante. J'aimais à jouir d'elle dans son présent et dans son passé. J'eusse volontiers employé mon temps à fouiller les antiques archives de son histoire, mais pour cela il eût fallu de l'argent, et j'en étais extrêmement dépourvu. Comment suppléer à cette pénurie qui mettait obstacle à mes goûts de flâneur et d'historien amateur? Ce fut un jour où je réfléchissais à ces difficultés que la fatale idée qui m'a amené ici me traversa soudainement la cervelle. J'étais entré à Saint-Marc. Assis sur un banc, je considérais les marbres précieux et les mosaïques qui ornent ce chef-d'œuvre des arts. Tout cet or répandu m'hypnotisait et toute cette richesse étincelante qui fait de l'intérieur de l'église une grotte pleine de sortilèges. À cette vue, le sentiment de ma pauvreté m'accabla, quand soudain, je me rappelais la teneur de vieux papiers d'État que le matin même, j'avais feuilleté aux archives. C'était un rapport des inquisiteurs au sujet d'un certain aventurier allemand nommé Hans Glucksberger, qui prétendait posséder l'art de la transmutation des métaux. Il était venu opérer à Venise au milieu du XVIIIe siècle, où il avait fait beaucoup d'adeptes. À ce moment, une illumination subite me parcourut l'esprit. Les voûtes d'or de Saint-Marc se mirent à tourner sur ma tête, et j'eus un éblouissement. Puisque ce merveilleux secret avait existé, pourquoi ne le retrouverais-je pas? Il devait avoir eu des dépositaires. Il devait être possible de retrouver leurs traces, de parvenir jusqu'à eux et d'en obtenir à mon tour la lucrative initiation. Mon parti était pris. J'obtins de ma famille un nouveau délai et je me plongeai fiévreusement dans l'étude des ouvrages d'occultisme et des traités d'alchimie. Bientôt, je fus convaincu que le pouvoir de faire de l'or n'était nullement une fable. Hans Glucksberger l'avait détenu certainement. Il avait dû en communiquer la formule à quelques-uns de ses adeptes vénitiens. Cette conviction décupla mes forces. Je continuai mes investigations. Tout à coup, la piste apparut. Parmi les adeptes de l'allemand, on citait une certaine comtesse Barbara Grimanelli. Cette dame de grande intelligence, au dire des contemporains, avait rétabli en peu d'années la fortune de sa famille fort ébranlée. C'était elle qui avait fait rebâtir le palais Grimanelli et qui l'avait fait décorer de fresques par Pietro Longhi. Pour moi, il n'y avait pas de doute, les prospérités soudaines de la comtesse Barbara étaient dues à la possession du secret merveilleux dont son petit-fils Odoardo devait être l'actuel légataire. Ah, cette comtesse Barbara, mais son visage m'était familier. Je la revoyais au centre de la composition où Longhi avait représenté divers personnages de la famille Grimanelli assis à des tables de jeu. La scène était amusante et très vivante, avec ses figures de grandeur nature et son décor en trompe-l'œil. Au milieu des joueurs se tenait debout la comtesse Barbara. C'était une grande femme à l'air dur et hautain. Sa main déroulait un papier couvert de signes cabalistiques. Comment ces signes ne m'avaient-ils pas mis plus tôt sur la voie? Et l'existence que menait Odoardo depuis sa majorité ne s'expliquait-elle pas soudainement? Il était d'une autorité publique que le père d'Odoardo était mort, ayant dissipé ses biens, et depuis 2 ans, Odoardo faisait des dépenses exagérées. Le palais Grimanelli avait été restauré et remis sur un grand pied. Odoardo faisait à Londres et à Paris de coûteux séjours. N'était-ce pas là la preuve qu'à son tour il détenait le secret de la comtesse Barbara, de Hans Glucksberger, le secret merveilleux que je voulais moi aussi m'approprier? Car ce secret, il me le fallait à tout prix. Pourquoi Odoardo refuserait-il de le partager avec moi, puisque ma perspicacité en avait découvert l'existence? Mais comment arriver à mes fins? La première condition était de revoir Odoardo. Or, il était en ce moment à Venise, et le lendemain, je me rendis au palais Grimanelli. On m'introduisit justement dans la galerie où se trouvait la fresque. Comme Odoardo tardait à paraître, j'eus le temps d'examiner l'ouvrage de Langhi. Un seul personnage m'intéressait, celui de la comtesse Barbara. Je fus frappé de son air de dureté et de menace. Sa main semblait serrer avec colère son grimoire, d'ailleurs sans signification, et vouloir le dérober aux indiscrets. L'entrée d'Odoardo mit fin à mes réflexions. Odoardo m'accueillit avec amitié. Il me parla de son récent séjour à Londres, puis il m'interrogea amicalement sur moi-même. Est-ce que je m'étais enfin décidé à prendre un métier? À cette question, je répondis évasivement. J'alléguai, pour justifier mon indécision, mon goût pour les travaux d'archives. Odoardo m'écoutait avec bienveillance. Évidemment, pour lui, les voyages, le jeu et les plaisirs étaient les seules occupations admissibles. Certes, je comprenais cela, mais néanmoins les recherches d'érudition avaient bien leur intérêt. Ainsi, dernièrement, par exemple, j'avais découvert de curieux détails sur son aïeule, la comtesse Barbara. En disant cela, je désignai le portrait. Odoardo parut quelque peu embarrassé, puis il se mit à rire bruyamment. « Allons, je suis sûr que tu as découvert quelques frasques de ma respectable aïeule. »« Ah, vous autres érudits, vous êtes tous les mêmes. » »« Imagine-toi qu'il a dernièrement paru à Paris une brochure où un jeune chercheur français prétendait avoir mis la main sur une correspondance des plus compromettantes entre la comtesse et l'aventurier Casanova de Saint-Galt. » Il me regardait en dessous. Je me mis à rire à mon tour. « Hé hé, mon cher Odoardo, cela ne m'étonnerait pas. Il se pourrait fort bien que ce soit Casanova qui ait contribué à initier ton aïeul aux manipulations d'alchimie et aux opérations de magie. Venise à ce moment était pleine de cabalistes. Il en venait même de l'étranger. » Odoardo ne riait plus. Il semblait en proie à un malaise visible et détourna brusquement la conversation. Il revint sur la question de la carrière qu'il était urgent que je choisisse. Il m'offrit même de m'aider de ses relations. Si j'avais besoin de lui, il était à ma disposition. Tout en parlant, il faisait discrètement teinter quelques pièces d'or dans le gousset de son gilet. Pauvre Odoardo, ce n'était pas cela que je voulais de toi. Ce qu'il me fallait, c'était le merveilleux secret de transmutation dont tu étais certainement possesseur. Et j'étais bien résolu à l'obtenir de toi, de gré ou de force. Il ne me restait plus qu'à trouver le moyen de t'arracher par persuasion ou par violence la formule mystérieuse et souveraine. Ces moyens, j'employais plusieurs semaines à les combiner. Chaque jour, je passais de longues heures à les méditer dans la grotte d'or de Saint-Marc. Souvent, je prenais une gondole et me faisais conduire au plus désert de la lagune. Le silence de ces eaux muettes est propice à la réflexion. Ce fut un soir que ma gondole longeait les vieux murs de l'île San Servolo, que j'arrêtai le plan suivant. Je demanderai à Odoardo un entretien particulier, puis une fois enfermé cela seul, je saurais bien le faire parler. J'étais d'une force musculaire peu commune, j'étais déterminé à tout pour parvenir à mon but. Il me fallut attendre le retour d'Odoardo qui était allé à Rome pour assister à une représentation théâtrale. Enfin, le jour fatidique arriva. Odoardo devait me recevoir à 6 heures. À 5h30, je me dirigeai vers le palais Grimanelli. Toutes mes dispositions étaient prises. J'avais dans ma poche un baillon et de solides cordelettes, et je n'avais pas oublié mon revolver. J'étais très calme. Une seule chose me préoccupait. Odoardo me recevrait-il dans son fumoir ou dans la galerie des fresques? J'eusse préféré le fumoir, plus isolé. Mais je saurais m'accommoder de la galerie. Quoi qu'il en fût, j'étais sûr de réussir. Odoardo ne m'opposerait pas grande résistance et, une fois son secret livré, il me pardonnera même peut-être bien le sans-gêne de mon procédé. Ce fut dans ces sentiments que j'arrivai au palais Grimanelli, et ce fut dans la galerie que l'on me conduisit. Au haut de l'escalier, le domestique qui m'accompagnait se retira. J'entrai doucement. Odoardo se trouvait justement devant la fresque de Longhi qu'il semblait examiner avec une telle attention que je pus m'approcher de lui sans qu'il remarquât ma présence. Avant qu'il eût pu pousser un cri, faire un mouvement, il était bâillonné et étendu sur le pavage. Je m'essuyai le front, tirai mon revolver et je me mis en devoir de lui expliquer ce que j'exigeais de lui. À mesure que je parlais, Odoardo devenait d'une pâleur livide. Il ne paraissait pas m'écouter et ses yeux demeuraient fixés sur un point de la muraille. Machinalement, je suivis son regard. Ce que je vis était si terrible que le revolver me tomba des mains et que je demeurai paralysé d'épouvante. Lentement, mais sûrement, dans la fresque où l'avait peinte Longhi, la comtesse Barbara s'animait d'une vie mystérieuse. Ce fut d'abord un doigt qui remua, puis la main, puis un bras, puis l'autre bras. Soudain, elle tourna la tête, elle avança un pied, puis l'autre. Je vis l'étoffe de sa robe s'agiter. Oui, la comtesse Barbara quittait la muraille, où depuis 150 ans son image immobile était demeurée prise sous les couleurs et les enduits. Et il n'y avait pas de doute possible. À la place qu'elle occupait dans la fresque, une large tache blanche se dessinait. La comtesse Barbara venait défendre le secret pour lequel, sans doute, jadis, elle avait vendu son âme au diable. Maintenant, elle était à 2 pas de moi. Tout à coup, je sentis sur mon épaule sa main lourde et glacée, tandis que ses yeux me regardaient impérieusement et longuement. Quand je repris connaissance, j'étais couché sur un lit sur lequel me retenait une sangle solide. Dans un coin de la chambre, Odoardo causait avec un monsieur à barbe grise. C'était l'excellent directeur de l'asile San Servolo. À mon chevet, mon père et ma mère pleuraient. Sur une petite table étaient déposés le bâillon, les cordelettes et le revolver. Heureusement que j'étais désormais considéré comme fou, sans quoi ces pièces à conviction eussent pu m'attirer bien des ennuis. C'est égal. J'étais bien près de savoir le grand secret, et sans cette maudite comtesse Barbara. J'avais relégué depuis longtemps dans mes paperasses les confidences du pensionnaire de l'île San Servolo, quand le mois dernier, je vais passer une quinzaine à Venise. Un jour que je me promenais place Saint-Marc, je rencontrai mon ami Jules d'Esculac. « Venez donc, me dit-il, voir les fresques du palais Grimanelli que l'on me propose d'acheter. Le comte Grimanelli est mort récemment à Londres et ses héritiers vendent ses Longhi. Ils sont dans le genre de ceux du palais Grassi. » Grimanelli. Ce nom attira mon attention. Où donc l'avais-je entendu prononcer? Je suivis mon ami d'Esculac qui ajoutait. Seulement, c'est ennuyeux, la fresque est détériorée et il manque un personnage. Il paraît que l'accident date d'une 20aine d'années, quelques fissures ou quelques écaillements de la muraille. Ces Vénitiens sont si négligents et puis le comte n'habitait plus son palais. Nous arrivâmes au palais Grimanelli. Il est situé à San Stae, tout près du Grand Canal. Le gardien nous fit monter. La fresque de Longhi couvrait tout un panneau de la galerie. Elle représentait des personnages assis à des tables de jeu. Au milieu, il y avait, en effet, une grande place blanche. Je me souvenais maintenant. C'était là que se trouvait jadis l'image de la comtesse Barbara. Et pendant que Jules d'Esculac jargonnait italien avec le gardien, j'éprouvais devant ce curieux hasard une singulière impression de trouble et de malaise. Ainsi s'achève le secret de la comtesse Barbara, par Henri de Régnier.